Notre invité Charles Anderlin, bonjour, vous êtes écrivain, journaliste, ancien correspondant de France 2 à Jérusalem. Et si vous êtes à Paris, c'est parce que vous allez recevoir le prix Christophe de Pontfilly qui est attribué par la SCAM. La SCAM qui vous présente comme un témoin engagé et effectivement au travers de vos reportages, vous avez expliqué aux Français, aux téléspectateurs, la manière dont se déroulait le conflit israélo-palestinien. Et j'ai choisi un moment qui a probablement marqué les téléspectateurs, s'ils étaient devant leur poste de télévision ce soir-là, c'était le 4 novembre 1995, l'assassinat d'Itzhak Rabin par un extrémiste israélien.
J'étais en train de raccompagner le Premier ministre à sa voiture et un type a surgi, a tiré trois balles sur lui, il est blessé.
Atteint à la poitrine et à l'abdomen, Itzhak Rabin est décédé une heure plus tard sur la table d'opération. Israël est en état de choc. Spontanément, des Israéliens se sont rendus devant l'hôpital. Certains en criant leur colère contre la droite israélienne. Ce meurtre s'est déroulé à l'issue de la plus grande manifestation pour la paix organisée à Tel Aviv depuis 1982. Yitzhak Rabin avait pris la parole, répétant que rien n'arrêtera le processus de paix. Il faut, disait-il, que cessent les guerres, pour nous, pour l'avenir, pour nos petits-enfants. Face à 100 000 manifestants, il avait même entonné la chanson de la paix.
Votre voix qui nous est familière, Charles Anderlin, et cette soirée qui a marqué l'histoire, dont vous avez des souvenirs, j'imagine, assez précis.
Oui, tout à fait. Cela faisait des mois, sinon plus, que j'avais l'impression que quelque chose se préparait. Contre Rabin, contre Shimon Peres, les rabbins avaient lancé une sorte de fatwa, de condamnation pour les deux dirigeants qui avançaient dans les négociations avec l'OLP. Il y avait de très importantes manifestations de la droite, de l'extrême droite avec les sionistes religieux, les colons, c'était extrêmement violent. L'année précédente à Hébron, un colon de Kiryat Arba, la colonie juive de la ville, avait massacré près de 29, je crois, Palestiniens en prière. Le Hamas et le djihad islamique avaient commencé les attentats suicides et la situation était de plus en plus préoccupante. Il était très important que cette manifestation pour la paix se déroule ce soir-là. C'était ce dont Peres et Rabin avaient besoin pour essayer de faire avancer le processus.
Cette soirée a-t-elle marqué un tournant ? Alors des tournants, il y en a eu malheureusement beaucoup dans l'histoire de cette région, dans le conflit israélo-palestinien, mais on se dit que ce soir-là, en 1995, il se pourrait que la paix ait perdu son principal espoir. Qu'est-ce que vous en pensez rétrospectivement, Charles Anderlin ?
Je crois que c'est vrai. On a eu très vite Shimon Peres qui a succédé à Rabin, qui a perdu les élections en 96. Le retour de la droite au pouvoir, de Benjamin Netanyahu qui avait été à la tête de la plupart des grandes manifestations du Likoud, de la droite nationaliste contre le processus. Et effectivement, oui, je crois que s'il fallait marquer dans l'histoire une date, c'est celle-là. Cela a conduit à une relance de la colonisation, à des échecs les uns après les autres, que ce soit Camp David en juillet 2000, pour arriver aujourd'hui à une situation de blocage presque absolu, avec un autre moment important dans l'histoire, c'est-à-dire un moment où à la fois une administration américaine et un gouvernement israélien se sont alliés pour imposer un règlement à l'OLP, un règlement intérimaire.
Aujourd'hui, effectivement, on en est là, la voix de Benjamin Netanyahou.
C'est un plaisir que de vous revoir à Paris. Paris est la capitale de la France. Jérusalem est la capitale d'Israël. Elle a été, depuis 3000 ans, la capitale de l'État israélien depuis 70 ans. Nous respectons votre histoire, vos choix, et nous savons qu'en tant qu'amis, vous respectez les nôtres. Je pense que c'est également essentiel pour la paix. La paix doit être basée sur des fondations, sur une vérité, sur le présent. C'est la seule façon de construire un avenir réaliste et de le construire avec succès.
La proposition américaine, qui a donc été acceptée par Benjamin Netanyahou, et votre réaction sur le fait que Jérusalem devienne la capitale d'Israël, Charles Anderlin?
Je crois que c'est pas une proposition. Je crois que c'est un véritable accord entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Ils sont parfaitement coordonnés sur tout ce qui se passe dans la région à l'heure actuelle, enfin dans le conflit israélo-palestinien. Il faut vous rappeler que l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Monsieur Friedman, est un chaud partisan de la colonisation en Cisjordanie. Il est même participe à un comité d'aide financière à une colonie. Jared Kushner, le gendre de Monsieur Trump, est lui-même impliqué, a été longuement impliqué dans le développement de la colonisation. Il a contribué financièrement. Et Jason Greenblatt, l'émissaire de Donald Trump dans la région pour faire la paix, a longtemps séjourné dans une colonie où il a appris à faire la garde avec un M16. Alors, la politique américaine n'est pas tout à fait une politique de gauche.
Et la suggestion serait donc de faire d'Abu Dis la capitale d'un État palestinien. Alors, Abu Dis, pour le situer à nos amis auditeurs, c'est à peu près à une heure de Jérusalem. C'est beaucoup plus près si on élimine les checkpoints. Mais évidemment, checkpoint, il y a des frontières qui sont des frontières difficiles à franchir, notamment pour les Palestiniens. Abu Dis, c'est une proposition ou c'est un accord?
C'est la proposition d'accord intérimaire que Trump et Netanyahou et d'autres dans la région veulent imposer à Mahmoud Abbas. En gros, cela représenterait 38% de la Cisjordanie, pour commencer. Sharon, à l'époque, proposait 40%. Abu Dis, vous l'avez dit, capitale provisoire de la Palestine. Mais attention, on en avait parlé dans les années 90, à la fin des années 90. Mais à l'époque, il n'y avait pas un mur de 9 mètres de haut qui séparait Abu Dis de Jérusalem. Là, si effectivement, il s'installe à Abu Dis, en montant sur les toits, au loin, ils verront peut-être le bout de la coupole dorée du dôme du rocher à Jérusalem.
Oui, c'est assez proche. C'est un peu comme si Levallois-Perret, avec tout le respect qu'on a pour Levallois-Perret, vous et moi, Charles Anderlin, devenait la capitale de la France.
Oui, maintenant, il s'agit d'un accord intérimaire imposé aux Palestiniens, qui pour l'instant refusent absolument. Ils savent très bien ce que le mot intérimaire ou provisoire signifie dans cette région. On est dans l'intérimaire provisoire depuis 1993. Donc Abbas refuse absolument. Il est littéralement au pied du mur, plutôt lâché par ses alliés égyptiens. Il faut dire que la coopération militaire, sécuritaire entre Israël et l'Égypte est sans précédent. Nous avons récemment eu des informations selon lesquelles, pour aider l'armée égyptienne, l'armée de l'air israélienne a procédé à une centaine de frappes contre Daesh dans le Sinaï. Même chose avec la Jordanie, le roi Abdallah a une coopération sécuritaire sans précédent également avec Israël, et aussi bien monsieur Sissi que le roi Abdallah n'ont aucune envie d'avoir une crise israélo-palestinienne qui les obligerait de revoir cette coopération sécuritaire. Donc Abbas est bien seul, et si je ne me trompe pas, je crois que le président Macron a conseillé monsieur Abbas d'examiner sérieusement, malgré tout, la proposition Trump, ce qu'il refuse.
Est-ce qu'il ne vaut pas mieux une mauvaise paix, lui aurait-il dit en substance, plutôt qu'une mauvaise guerre, puisque, comme vous venez de le rappeler, Charles Anderlin, la position d'Israël sur le plan géostratégique est extrêmement favorable, peut-être plus favorable encore qu'il y a 10 ans. Il y a une Syrie qui est dans l'état que l'on sait, état très affaibli, même s'il y a la question du plateau du Golan. Il y a le Liban qui est peut-être le seul point de friction possible. Mais pour le reste, la Jordanie et l'Égypte sont, pour la Jordanie, un protectorat, et pour l'Égypte, on peut dire, un allié objectif.
Écoutez, la question à l'heure actuelle, c'est quelles sont les options? Il n'y en a que deux. Soit le maintien du statu quo actuel, et on continue, on fait semblant qu'il y a encore de quoi négocier, ce qui est moins sûr que jamais. soit alors on va vers une autre formule. En l'absence de la création d'un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël, eh bien c'est une forme d'État binational, soit tous les citoyens sont égaux et les Juifs finiront par y être minoritaires, et ce sera la fin de l'État d'Israël tel qu'on le connaît, ou alors une forme d'apartheid. Alors, pour ne pas arriver là et à de nouvelles catastrophes, on parle justement d'imposer cet accord intérimaire. Abbas n'en veut pas. Pour l'heure, tout le monde espère, tous les diplomates espèrent qu'il va maintenir le statu quo. C'est ce à quoi tout le monde travaille, y compris financièrement, parce que l'autorité autonome de M. Abbas est constamment déficitaire, avec de gros problèmes, et dès qu'il risquerait de ne pas pouvoir financer la police palestinienne qui assure la sécurité dans les villes palestiniennes et la lutte contre le terrorisme et la coordination sécuritaire avec Israël, tout le monde met tout de suite la main à la poche et sort des chèques. Il ne faut surtout pas que l'autorité palestinienne s'effondre.
Mais à la fois, c'est quand même une vie politique tragique que celle d'Abbas, puisque il est toujours un modéré. Il a cru en la possibilité de trouver un accord de paix, et le principal homme qui est trahi par cette décision de Donald Trump, c'est Abbas.
Oui. Finalement, il a eu quelques acquis. Il a réussi à gérer le statu quo, à empêcher une nouvelle intifada depuis son arrivée au pouvoir après la mort de Yasser Arafat chez les Palestiniens. Abbas a obtenu la reconnaissance par l'ONU de la Palestine comme observateur assistant à l'Assemblée générale de l'ONU. Il a fait entrer la Palestine à l'UNESCO. Maintenant, vous savez, dans ce conflit, il faut faire la différence absolue entre tout ce qui est diplomatie politique et la réalité sur le terrain. Parce que sur le terrain, les choses se poursuivent indépendamment de toute politique. La colonisation aujourd'hui représente plus de 400 000 Israéliens vivant sur 60% de la Cisjordanie virtuellement occupée par Israël et totalement sous le contrôle israélien. Dans ces conditions, on ne voit pas très bien comment un État palestinien est possible. Souvenez-vous, pour le retrait des colonies de Gaza, il y avait 7000 colons israéliens. Finalement, il a fallu aux environs de 50 et 70 000 militaires et policiers pour les évacuer. On n'évacuera pas 400 000, on n'évacuera pas 40 000 colons de Cisjordanie.
On les évacuera probablement pas, d'autant qu'il faut peut-être expliquer à nos auditeurs qui ne connaissent pas la situation sur place, Charles Anderlin, que ces colonies sont pour certaines d'entre elles de véritables villes, des banlieues. Banlieue de Tel Aviv, avec des villes comme Ariel, par exemple, qui n'ont rien d'un campement ou, en tout cas, d'une situation provisoire.
Oui, tout à fait. Vous avez des colonies urbaines qui sont très importantes. D'ailleurs, Ariel a aujourd'hui un collège universitaire que le gouvernement israélien entend transformer en université internationalement reconnue, ce qui fait grincer pas mal de dents et risque de poser des problèmes. Et puis surtout, c'est un mouvement pour qui l'idée du messianisme est omniprésente, à savoir que cette installation de colonies de juifs en Cisjordanie, c'est le retour non seulement d'Israël dans la terre biblique, mais c'est aussi un processus annonciateur pour le sionisme religieux de l'arrivée des temps, de l'arrivée des fins des temps, de l'arrivée un jour du Messie, avec l'énorme problème que représente à Jérusalem les lieux saints, surtout à l'Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam, mais qui est aussi l'endroit où se trouvait le mont du Temple, le temple d'Hérode, avant cela le temple de Salomon. Et c'est, vous savez, c'est là le point de friction entre l'islam et le judaïsme.
N'oubliez pas aussi les lieux saints de l'autre religion, de la troisième religion sur le site. Il y a également toute la problématique autour des lieux saints chrétiens qui fait que la situation dans la vieille ville de Jérusalem est également très complexe, Charles Anderlin.
Oui, vous savez, le point de friction, c'est essentiellement entre l'islam et le judaïsme. Pour les musulmans, il n'y avait pas de temple juif à cet endroit. C'est le Coran, c'est les hadiths, c'est les sourates. Aucun dirigeant palestinien n'acceptera qu'à cet endroit se trouvait un temple juif. À l'époque, j'avais posé la question à Yasser Arafat. Vous savez, ici, les Israéliens disent qu'il se trouvait leur temple. Il m'a répondu, on a cherché partout, on a trouvé seulement des ruines romaines. C'était bien entendu les ruines du temple d'Hérode.
Oui, parce qu'en fait, il faut rappeler aussi que l'archéologie là-bas a une dimension absolument politique avec le fait que si l'on creuse un tunnel donc, dans cette esplanade au-dessus de laquelle il y a donc la mosquée Al-Aqsa et le mur de soutènement qui est devenu le mur des lamentations, on a immédiatement des répercussions politiques qui ont lancé d'ailleurs une intifada, comme on s'en souvient, Charles Anderlin. Mais au-delà de ça, le statut pour l'instant international de la ville de Jérusalem, le fait que finalement il y a une sorte de situation de statu quo dans la ville sainte et dans la vieille ville autour des trois religions peut constituer aussi une solution qui arrange un peu tout le monde, non ?
D'abord, le statu quo effectivement doit être maintenu parce que l'alternative c'est une explosion régionale. Vous savez, le Al-Aqsa, mont du temple, c'est en quelque sorte le trou noir du conflit au Proche-Orient. Cela peut tout absorber. C'est là que le judaïsme et l'islam vont de nouveau, un jour, peut-être s'affronter.
Et oui, sur une surface qui est grande comme la place de la Concorde à Paris, pour donner à peu près les dimensions de ce point noir, ou en tout cas de ce point extrêmement inquiétant du monde. On va continuer à l'évoquer avec vous aux environs de 8h20, Charles Anderlin. Évoquer aussi la politique israélienne, parce que Benjamin Netanyahou n'est malgré tout pas dans une situation très facile. Il est accusé de corruption, 4 chefs d'inculpation contre lui. Les choses pourrait également basculer de ce côté-là. On vous retrouve aux environs de 8h20. Il est 8h sur France Culture.